France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Retour sur les élections municipales et retour en France. Donc, on va s'intéresser à la figure du maire et à son histoire. Célébrée en grande pompe par la République lors du centenaire de la Révolution française et de l'Exposition universelle de 1900, le maire est devenu au fil des ans et au fil des décennies une figure sympathique qui incarne la République dans tous ses territoires, quitte à en devenir le seul représentant même quand les services publics s'érodent. Alors, comment le maire, connu pour être aujourd'hui le seul élu à porter de baffe, s'est-il imposé pour être la figure que nous connaissons aujourd'hui, et quelle place a-t-il pris dans les territoires éloignés de la République? Un invité pour nous éclairer ce soir, Emmanuel Bélanger. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, spécialiste des banlieues, directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire CHS, le Centre d'Histoire Sociale, qui fête, je le signale, ses 60 ans le 26 mars. Merci donc d'être au micro ce soir de France Culture et de Questions du Soir.
Ayant voté, les nouveaux conseils municipaux élisent leur maire, qui donc va venir s'asseoir sur l'humble fauteuil des mairies villageoises, ceindre l'écharpe tricolore. Ce maire rural, le connaît-on? Connaît-on assez son rôle, son importance? Paysan au milieu des paysans, il mène la même vie qu'eux, partage les mêmes peines, souffre des mêmes soucis. Il connaît chaque foyer, il est pour chacun un guide et un conseiller. Dans sa mairie, il est le témoin obligé de la vie de tous. Il est de toutes les noces, comme il est de tous les deuils. C'est à lui encore qu'il ait choix de guider sa commune au milieu des flots d'une lourde paperasserie administrative. Ses nécessités aujourd'hui augmentent l'imminence de son rôle. Et c'est peut-être ce travail patient, lent et long comme les travaux de la terre, accompli dans la compagnie de l'instituteur secrétaire de mairie, qui font de lui, dans ce décor fruste et quotidien, le protagoniste de la vie de l'une des 34 000 communes rurales de France. Un peu le patron, un peu le père, un peu le guide, monsieur le maire.
Un peu le patron, un peu le guide, un peu le père, monsieur le maire. Très belle archive de 1947, issue des actualités françaises, Emmanuel Bélanger. Alors, est-ce que c'est cela, un maire en France, dans une commune? Est-ce que c'est tout cela à la fois?
Ah oui, certainement, assurément. En bon historien, je vais citer mes sources. Maurice Agulon, historien de la République. Et Maurice Agulon insiste, en effet, sur le maire, figure sympathique et incontournable d'une République qui incarne à la fois donc une personnalité publique, qui est l'élu des citoyens et qui incarne cette démocratie locale et que l'on souhaite participative. Et il est à la fois le grand ordonnateur, ce grand ordonnateur des rites, des commémorations, des manifestations civiques.
Ça, c'est Maurice Agulon, ce sont ces mots.
C'est Maurice Agulon qui ajoute même que il donne corps, ce maire de la République, à une symbolique et à une territorialité républicaine. Et en quelque sorte, il enracine cette figure dans cette longue histoire de la République et cette longue histoire de nos institutions et de notre vie politique.
Quel est l'ancêtre du maire? Qui organisait la vie communale, la vie des villes, si je puis dire, avant que le maire ne soit strictement institué? On y reviendra.
Alors, le maire, celui qui m'intéresse surtout, hein, c'est celui de l'époque contemporaine. C'est celui qui va en quelque sorte achever ce grand acte de la Révolution française, qui est de transformer les paroisses en communes, en cité démocratique, en communes, c'est-à-dire en territoire de l'animation sociale, politique d'un pays qu'il convient d'unifier. Et ce maire, cela a été dit, en effet, il va jouer un rôle extrêmement important parce que il est la figure du quotidien. On a parlé de symbolique, mais c'est lui qui, en effet, a en charge cette administration de l'école au cimetière, oserais-je dire, en tout cas cette administration du quotidien qui est indispensable à ses administrés. Alors, on dit le maire, en réalité, le vécu et l'expérience mayorale, l'expérience des maires, elle est très différente.
Elle est plurielle, elle est aussi diverse que le nombre de maires il y a.
Voilà, exactement, exactement. Et le maire des communes rurales, je dirais, ne vit pas la même expérience que celle des communes urbaines. Des communes urbaines qui, incontestablement, vont connaître au cours du XXe siècle une profonde croissance, une croissance urbaine tout à fait exceptionnelle qui va transformer la France et qui va dévitaliser une grande partie de ces communes rurales et affaiblir même cette position œcuménique des maires, puisqu'aujourd'hui, on le sait, dans certaines communes où les difficultés que peuvent rencontrer cette même République et ces préfectures à trouver des représentants pour toujours représenter l'État dans ces communes.
Je profite tout de même que vous soyez historien, Emmanuel Bélanger, pour faire cette histoire de la figure du maire. Vous avez évoqué un moment phare, un moment clé, la Révolution française. Qu'est-ce que cette révolution change pour le maire dans ses prérogatives, dans son organisation également ?
Alors, la Révolution, elle sonne l'heure du maire moderne, du maire contemporain, qui doit assumer des fonctions essentielles. On l'oublie parfois, mais la première d'entre elles, c'est la fonction nourricière. Mmh. C'est lui qui doit assurer à ses concitoyens de pouvoir vivre et se nourrir. Mais imaginez-vous, en période de crise, en période de guerre, et y compris plus récemment, la période de crise sanitaire avec le Covid, l'importance des maires qui doivent assurer à leur territoire et à leurs concitoyens cette fonction essentielle de l'approvisionnement de leur territoire. Donc cette fonction nourricière, elle est essentielle. Et évidemment, on doit y ajouter la fonction protectrice. Le maire, c'est la figure du protecteur. C'est celui qui, à la fois, doit d'ailleurs assumer des prérogatives de police municipale, mais aussi de police sanitaire. C'est lui qui va veiller à rendre obligatoire la vaccination. C'est lui qui va promouvoir l'hygiène sociale à partir de cette grande loi de 1902 sur la santé publique. Et enfin, le maire s'impose, surtout dans les communes urbaines, qui accueillent des flux et des flux et des flux de migrants. Les Trente Glorieuses, pour rappel, l'exode rural...
Des migrants venus de la campagne. Hein.
De la campagne et de l'étranger, mais il faut bien imaginer que pendant la seule période des Trente Glorieuses, ce sont 18 millions de nouveaux habitants pour les villes françaises. Et donc, ce maire va devenir un maire réalisateur et aménageur.
Je voudrais évoquer une date également, 1882, et un texte en particulier, la loi du 28 mars, donc 1882, qui a généralisé à l'ensemble des communes de France la désignation des maires et de leurs adjoints par le conseil municipal, élu au suffrage universel masculin encore évidemment. Là aussi, qu'est-ce que cela vient transformer ? C'est l'organisation, la mise en place, la mise sur pied profondément de la façon dont une relation est tissée avec le maire et ses administrés.
Dans cette séquence des années 1880, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'elle va consacrer la démocratie locale. Le maire est élu par son conseil municipal, certes, mais son conseil municipal est élu par les concitoyens qui forment ces communautés villageoises ou les communes et les bourgs de France. Mmh. Et donc, il faut ajouter que cette reconnaissance politique du maire élu, et vous avez raison de le préciser, hein, élu uniquement par des hommes jusqu'à la libération, ce maire va aussi, grâce à cette Troisième République, qu'on a pu appeler aussi la République des mairies, offrir à ces maires une capacité d'action et une reconnaissance politique, mais qui passe incontestablement par ce premier grand moment de la décentralisation. Et cette première décentralisation, autant le préciser, on a tendance toujours à insister sur le premier septennat de François Mitterrand, qui au début des années 80 va consacrer les libertés municipales et la décentralisation, alors qu'en réalité, c'est la Troisième République qui, avec sa charte municipale du 5 avril 1884...
Qui initie les choses.
Voilà, du 5 avril 1884, va renforcer en quelque sorte cette position centrale du maire et revenir incontestablement sur l'image un peu clochemerlesque que nous avons des maires, alors qu'ils vont jouer un rôle essentiel dans la nationalisation des grandes politiques. Il n'y aurait pas d'école en France, d'école communale, s'il n'y avait pas un maire qui portait ses projets d'édification.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le maire est bien plus au fond que l'émanation du suffrage du territoire qui le concerne. En retour, il est également, pour la République elle-même, un véritable émissaire pour porter une bonne parole, si je puis dire, ou même pour mettre en œuvre, mettre en place de véritables politiques publiques.
Oui, il est à la fois l'incarnation de ce que l'on peut appeler les petites patries, ou même le patriotisme de clocher, qui peut se traduire aussi en égoïsme municipal, incontestablement.
Le patriotisme de clocher.
Le patriotisme de clocher, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans cette longue histoire communale. Et il devient aussi, je dirais, la figure, dans certaines villes, évidemment, de la modernité qui répond aux besoins d'une population qui va profondément changer au cours de ce 20e siècle.
Une autre archive, une archive, de 1971, issue de Bourgogne Actualité. Cette fois, on entend des Dijonnais interrogés sur leur perception quant au rôle de leur maire.
Quel âge avez-vous ?
17 ans.
Vous ne votez pas encore ?
Non, pas encore.
Est-ce que ça vous intéresse, les élections municipales ?
Pas du tout, non.
Ben, vous savez, moi, je suis pas conseiller municipal, j'y connais rien, moi. Et ce qu'ils font là-dedans, vous savez, j'y connais rien du tout, moi.
Il est là pour faire ce qu'il a à faire, chacun fait son tourment, le reste après, c'est tout.
Quand on a besoin de quelque chose, eh ben, c'est le maire qui fait tout dans une commune. Oui. C'est lui le patron, c'est lui le maître. C'est oui. Tout ce qu'on a à faire et c'est tout. Il y a beaucoup de choses, bien sûr, déjà le mariage. Hein?
Oui.
Et puis, ma foi, quand on a besoin de quelque chose, et surtout les impôts, ils savent bien les prendre aussi. Hein?
Quel est le rôle le plus important, le rôle le plus important du maire, selon vous ?
C'est d'organiser une ville pour qu'elle fonctionne dans le meilleur rendement pour tout le monde, aussi bien d'un point de vue industriel que commercial, etc.
Qu'auriez-vous répondu à cette question vous-même, Emmanuel Bellanger ? Au fond, quelle est la prérogative première, la prérogative essentielle d'un maire aujourd'hui ?
D'un maire aujourd'hui, alors, vous posez la question à un historien, il est un petit peu ennuyé pour répondre.
Alors dans le passé, non, mais ce qui est intéressant dans le fond, c'est que c'est l'extension de ses prérogatives dans le temps.
Ah oui, incontestablement. Quand j'évoquais la figure du maire bâtisseur, il faut imaginer que dans certaines villes de tradition ouvrière et populaire, c'est le maire qui va construire un domaine communal du logement social, qui va jouer un rôle essentiel. C'est le maire qui va mettre en avant des politiques sociales qui sont essentielles et un service public communal qui est essentiel dans les communes où les habitants n'ont pas de capital autre que celui du service public. Et les colonies de vacances et les centres de santé sont en quelque sorte plus qu'un symbole, mais offre contribue en quelque sorte à répondre à des besoins qui sont essentiels. Et ce qu'on entendait tout à l'heure, c'est aussi en creux la figure du notable qui est une figure finalement qui mériterait elle aussi d'être nuancée parce que ces maires vont se professionnaliser eux aussi.
On va y revenir, mais parce que c'est effectivement un point capital de votre propre travail d'ailleurs, Emmanuel Bellanger, mais quelques chiffres d'abord qui m'ont surpris. La durée moyenne du mandat des maires est passée de 15 ans en 1882 à plus de 18 ans en 1936. Elle est encore de 17 ans en 1966. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que cela raconte même ces mandats qui s'allongent le temps et les années passant ?
Certainement le besoin d'une continuité.
De la part des citoyens ?
De la part des citoyens et puis aussi avec l'assurance qu'on aura une continuité de service public également. Et puis que ce maire, c'est un familier, il est un des nôtres souvent, même si c'est le notable. Et plus encore lorsque on est dans des villes rouges où le maire sera appelé par son prénom. Évidemment, ce maire est cette figure quelque peu rassurante. Surtout lorsque la période est mouvementée, lorsque des crises, des guerres vont fragiliser le corps social et que le maire se retrouve être ce qu'il est depuis, je dirais, les origines, c'est-à-dire cette figure du recours. Et donc c'est important de le rappeler. Et cela explique aussi certainement pourquoi la France n'est jamais parvenue à transformer, rationaliser son parcellaire communal. La Révolution française, 40 000 communes, paroisses qui deviennent des communes, Aujourd'hui, en 2025, 2026,
26 même.
même 2026, moi, historien, voilà, peut-être parfois un train de retard, mais en tout cas, mes données remontaient à 2025. La France compte encore près de 35 000 communes. Et donc, toutes ces volontés successives, déjà sous la Révolution française, de créer des municipalités de canton, sous la Ve République, de fusionner les communes de façon autoritaire et discrétionnaire, ou plus proche de nous, la loi de 2010 qui devait créer des nouvelles communes, ou des communes nouvelles, sont des échecs. Donc il y a une résistance du fait communal, un attachement à la commune, qui doit aussi nous interroger quand même. Il faut avoir une distance critique par rapport à cet attachement. Parce que c'est aussi des formes de replis municipaux qui peuvent avoir des conséquences incontestables.
Vous avez bien décrit, Emmanuel Bélanger, la façon dont, on l'a dit, les prérogatives du maire au fil de l'histoire s'étendent, deviennent de plus en plus importantes. Cela vient avec autre chose, un corollaire, c'est évidemment le fait que le maire doit se professionnaliser, qu'il doit organiser autrement sa mairie, ses services, ses administrations, son entourage. Comment, justement, le maire, au fil de l'histoire, parvient-il à structurer sa mairie d'abord, et au-delà, comment se professionnalise-t-il ?
Alors, dans la France rurale, le maire, en fait, il va longtemps former un duo avec l'instituteur. L'instituteur, c'est le secrétaire de mairie instituteur, et c'est celui qui accompagne le maire.
Qui joue un rôle au sein de la mairie.
Qui joue un rôle essentiel au sein de la mairie. Mais les maires, donc, de la France rurale, vont d'abord se reposer sur ces secrétaires de mairie instituteurs, et surtout, sur la tutelle préfectorale. La tutelle préfectorale et les services des préfectures qui vont au quotidien les aider à administrer leur petite commune. Dans les villes, c'est une toute autre dynamique que l'on découvre. Les maires se professionnalisent, mais surtout leur mairie se professionnalise. C'est un enjeu majeur pour notamment les maires des banlieues de France, hein, que d'avoir un personnel qui est en quelque sorte armé, qui devient sachant, afin de permettre à ces élus de devenir les réalisateurs qu'ils souhaitent être. Et donc, ces maires, c'est très intéressant de le rappeler, en tout cas les maires de banlieue, ceux que je connais certainement le mieux, vont faire preuve d'une innovation politique tout à fait remarquable au sortir de la Grande Guerre, en créant une école nationale d'administration municipale. La première ENA...
Dévolue donc à cette professionnalisation des maires.
Dévolue à leur personnel communal. Mais ce qui est très important, c'est que les maires ont conscience qu'ils ont impérativement besoin de professionnaliser leur mairie. Et eux, évidemment, ont un rôle politique, un rôle protocolaire, un rôle partisan aussi à assumer. Et donc, ils ont besoin de déléguer à ce qui va devenir la fonction publique territoriale, et donc à un personnel communal formé et armé pour répondre aux enjeux et aux besoins de leurs administrés.
Vous avez mentionné un peu plus tôt, Emmanuel Bélanger, cette figure du notable qu'il fallait tempérer, qu'il fallait relativiser. Alors, est-ce qu'au fond, si les Français aiment leur maire un peu plus que les autres responsables politiques, c'est aussi parce que, d'une certaine manière, leur maire leur ressemble un peu plus?
Alors, tout dépend à quel moment on les observe, ces maires.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Ouais. Alors, je vais essayer d'y répondre.
Je sais que ce qui vous intéresse, je vais préciser ma question par conséquent, c'est justement ce moment où des personnalités de gauche, notamment socialistes, notamment communistes, accèdent à la fonction de maire. Qu'est-ce que ce moment-là charnière raconte dans le rapport entre les Français et leurs édiles ?
Alors, ce qui est incontestable, c'est que le socialisme municipal, le communisme municipal, qui sont les deux grandes expériences politiques qui ont notamment donné naissance aux villes rouges, ont eu, à mon sens, une petite victoire, ou incarnent une petite victoire, c'est-à-dire ils ont incarné, ces deux expériences ont incarné la démocratisation de l'accès à l'exercice du pouvoir municipal. Ce que j'entends, ce que je souhaite dire, c'est que...
C'est pas fantasme, mais c'est véritable.
Non, c'est vérité. C'est une vérité historique, si j'ose dire. Grâce au socialisme municipal, grâce au communisme municipal, des ouvriers ont pris la tête de leur mairie. Et les ouvriers de ces communes, ils allaient élire l'un des leurs. Aujourd'hui, lorsque mes collègues politistes travaillent sur la fonction municipale et sur la socio-histoire des maires, ce sont seulement 0,4% des maires qui sont d'extraction ouvrière ou issus du monde ouvrier. Au moment du Front populaire, plus de 10% des grandes villes françaises étaient dirigées par des maires. Et donc on voit bien à quel point finalement cette démocratisation, elle connaît ses limites. Et qu'on peut avoir aussi des formes aujourd'hui plus contemporaines de confiscation du pouvoir municipal entre les mains de ces élites municipales qui ne sont plus celles qui incarnaient, je dirais, le grand soir, en tout cas celui d'un parti communiste ou d'un parti socialiste.
Prenons un exemple très concret que vous connaissez, je le sais, la figure du maire d'Ivry de 1945 à 1965, Georges Maran, qui était donc communiste. Qu'est-ce que cette histoire-là, la sienne en l'occurrence, raconte sur le communisme municipal et au-delà d'ailleurs sur le socialisme municipal, la gauche dans les communes ?
Alors je vous remercie de me permettre d'évoquer Georges Maran, la figure de Georges Maran. Georges Maran, c'est le maire d'Ivry. Les maires d'Ivry de 1925 à 1965. La longévité indique l'importance de son implantation et la reconnaissance en quelque sorte des Ivriens et des Ivriennes qui l'ont reconduit pendant près de 40 ans, il y a bien sûr la parenthèse de la guerre, à la tête de leur commune. Maran, c'est aussi cette figure sympathique de la République. Mais c'est un ouvrier qui
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, pardonnez-moi, la figure sympathique ?
La figure sympathique.
C'est un jugement de valeur ou c'est quelque chose justement
de plus
ancré ?
Ah non, c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est tout simplement une figure sympathique au sens où on se reconnaît dans ce militant, cet ouvrier qui s'est engagé non seulement pour la cause du peuple, mais aussi pour sa commune. Et donc cette reconnaissance, elle se lit bien sûr dans cette longue histoire de ce communisme municipal. Mmh. Elle souligne comment des ouvriers ont pu prendre les rênes de grandes communes. Et Maran, non seulement il prend les rênes de la ville d'Ivry, mais il va également devenir le premier maire du Grand Paris. Aujourd'hui, on parle du Grand Paris, qui n'a pas de maire, on le sait. Mais Maran a incarné cette figure en quelque sorte consensuelle, au-delà de sa seule formation politique, le Parti communiste, pour incarner en quelque sorte cette professionnalisation du métier de maire, mais toujours au service de la cause du monde ouvrier. Et donc Maran, évidemment, quand on pense Maran, on pense Ivry, et quand on pense Ivry, on pense Maurice Thorez. Maurice Thorez, qui était le secrétaire général, le grand dirigeant du Parti communiste du début des années 30 jusqu'à sa mort en 1964, et Maran, cette figure tutélaire du Parti communiste, elle a en quelque sorte ombragé une autre figure qui est tout aussi importante, qui est celle de Georges Maran. Donc merci de m'avoir permis d'évoquer son histoire.
Et merci de l'avoir retracé. Je voudrais que l'on parle maintenant des tensions historiques, mais que l'on observe encore prégnantes dans l'actualité, tensions entre l'État central et le maire, et les maires d'ailleurs qui sont partout en France. Ces tensions ont-elles toujours existé et se sont-elles toujours cristallisées, si je puis dire, sur la dimension financière ? Au fond, l'État critique les maires qui ne sauraient pas respecter l'équilibre de leurs propres finances.
Alors, la relation entre l'État et ses communes, c'est une relation ou une histoire vécue sur le mode du « je t'aime, moi non plus ». L'État ne peut pas se passer de ses communes et évidemment, les communes ne peuvent pas se passer de l'État, ne serait-ce que pour obtenir des dotations qui leur permettent de réaliser leurs programmes municipaux. Donc, ce qu'il faut, à mon sens, retenir de cette longue histoire de ces relations tumultueuses, c'est que il faut nous défaire de la vision d'un jacobinisme discrétionnaire qui aurait tout au long du 19e et 20e siècle oppressé son pouvoir périphérique, son pouvoir municipal. La réalité, elle est tout autre. On assiste plus à ce que la sociologie des organisations, des sociologues, des politistes ont appelé un jacobinisme amendé, un jacobinisme apprivoisé par sa périphérie, sa périphérie devenant le centre, parce que l'État ne peut se passer de ses auxiliaires que sont les maires et qui permettent à l'État, de mettre en œuvre ses grands chantiers, ses grandes politiques. On a parlé de l'école, on peut parler de l'aménagement du territoire, du désenclavement du territoire, de ces grandes politiques qui sont essentielles et qui ont besoin d'être portées par ce pouvoir périphérique.
Pourtant, on a le sentiment que l'actualité met uniquement la lumière sur les dissensions entre l'État et ses maires, qu'il est toujours question, je reviens là-dessus, de problèmes de finances, de compétition, de répartition aussi de compétences.
Non, le nœud des tensions, le nœud du conflit entre l'État et les maires et leurs associations, en particulier l'Association des maires de France, qui a...
L'AMF et les nombreuses autres associations.
Voilà, mais qui est créée dès 1907, hein, qui montre son importance pour justement défendre l'intérêt communal. Eh bien, le nœud conflictuel, il repose sur les finances. Les communes ont toujours été mises sous tutelle financière. Et alors qu'on leur demandait d'assumer de plus en plus de prérogatives, et donc c'est incontestable que ce contentieux financier, il est historique.
Merci beaucoup Emmanuel Bélanger d'avoir retracé cette histoire en pleine campagne municipale, dernière ligne droite même de ces campagnes municipales. Je remercie également celles et ceux qui ont préparé cette émission, Bruno Barada, Rodi Eken, Bertie Bourdon, à la réalisation Léa Racine.